Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé est à Port-au-Prince, où nous nous retrouvons pour le deuxième rendez-vous de notre semaine haïtienne. Aujourd'hui, nous parlons de l'alimentation et de la lutte contre la dénutrition. Car si dans de nombreuses régions du monde, les autorités sanitaires s'emploient à prévenir les populations des risques liés au déséquilibre alimentaire et à la malbouffe, obésité, hypertension, diabète, ici, la préoccupation n'est pas d'éviter certains aliments, mais simplement de manger. Manger à sa faim, trouver suffisamment de nourriture pour couvrir les besoins essentiels. Ces objectifs sont loin d'être atteints pour la plupart des Haïtiens. Plus de la moitié de la population est sous-alimentée. Près de 50% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. L'insécurité alimentaire aiguë concerne 2 200 000 personnes, 386 000 en situation d'urgence alimentaire. Et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, prévoit pour les 6 premiers mois de cette année une aggravation de la situation, avec plus du tiers, 37% de la population rurale, dépendante d'une aide alimentaire d'urgence. À côté de ce constat statistique implacable, il y a les réponses de terrain. Des médecins, des ONG, des institutions se mobilisent, ne baissent pas les bras et agissent pour traiter l'urgence, conseiller et développer des initiatives porteuses d'espoir, dépister, nourrir, sensibiliser les populations pour offrir un avenir aux plus vulnérables, aux enfants d'Haïti. Alimentation et lutte contre la dénutrition en Haïti, une émission réalisée avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Prise en charge des patients, initiative de terrain pour lutter contre les carences alimentaires. Nous retrouvons pour cette émission de Priorité Santé le docteur Vanessa Rousier. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service de pédiatrie et nutrition des centres Gestio, ces structures médicales qui réunissent des activités de soins, de recherche et de formation ici à Port-au-Prince. Au sein du Gestio Garda de Brosse, vous êtes infirmière praticienne responsable du programme nutrition. Garda de Brosse, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et troisième intervenante, Fiametta Capellini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable régional de l'ONG AFSI en Haïti et dans les Caraïbes, point focal nutrition au niveau mondial pour cette fondation AFSI, fondation italienne. On va l'entendre à votre merveilleux accent, engagé dans des projets de développement dans une trentaine de pays.
Priorité santé sur RFI.
Alors c'est une question large que je vais vous poser, docteur Vanessa Rousier, pour commencer cette émission, après les chiffres un petit peu terribles que je viens de citer, qui donnent une idée de l'ampleur de la situation, de cette malnutrition en Haïti, avec plus de la moitié de la population sous-alimentée. Est-ce qu'on peut dire véritablement aujourd'hui que c'est dans le pays, docteur Rousier, bien sûr un problème de santé publique, est-ce que c'est le problème numéro un de santé publique?
La malnutrition touche une grande partie de la population, en effet. Les enfants sont les plus vulnérables, les enfants de 0 à 5 ans, comme on a discuté, parce que ce sont eux qui, plus rapidement, sont affectés et la mortalité la plus élevée est chez les enfants. Est-ce que c'est la priorité numéro 1? Je dirais que c'est une priorité importante qui est intimement liée à l'accès aux soins de santé aussi, parce que l'enfant avec malnutrition présente des comorbidités de santé importantes.
Ça veut dire qu'il peut développer d'autres maladies en même temps.
Exactement. Et en Haïti, les deux maladies qui vont se présenter le plus couramment, ce sont la tuberculose chez l'enfant, mais il faut aussi dépister l'enfant pour le VIH, le virus responsable du sida. Et aussi, ces enfants-là sont sujets à développer des diarrhées et des infections respiratoires qui sont les deux plus grands tueurs des enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est une priorité parce que ça affecte une grande portion des enfants en Haïti et ça met en risque leur vie.
Alors, des maladies dangereuses pour les enfants, mais j'ai cette question qui est un petit peu brutale. Je la pose quand même, docteur Rousier. Est-ce qu'aujourd'hui, on meurt de faim en Haïti?
Oui, malheureusement. En Haïti, il y a encore des enfants qui meurent de faim. Maintenant, la malnutrition, comme on en a discuté, on peut mourir d'une infection à cause qu'on a une malnutrition.
Gerda Desbros, quel est le profil des enfants que vous prenez en charge dans votre service, dans votre programme de nutrition au GESCIO?
Ok, les enfants qu'on reçoit viennent des zones, plus ou moins ce qu'on appelle les zones défavorisées, qui viennent au GESCIO pour recevoir des soins et des intrants pour prendre en charge la malnutrition. Ça veut dire qu'on a des enfants de jeunes mères, des enfants de mères chefs de famille, et aussi on reçoit des enfants de pères et de mères qui sont encore avec eux, mais qui ont des problèmes socio-économiques très difficiles.
Alors, les institutions internationales établissent un classement en fonction de l'insécurité ou de la sécurité alimentaire, gravité de la situation, phase 3, crise alimentaire aiguë, phase 4, urgence alimentaire. Docteur Vanessa Rousier, différents niveaux aussi quand on accueille un enfant qui présente des signes, justement, vous classez comme ça en fonction de la gravité de la situation?
Alors oui, au niveau de la malnutrition, on parle de malnutrition globale qui englobe deux groupes. La malnutrition modérée, où l'enfant a clairement une déficience alimentaire qui le met à risque, et la malnutrition aiguë sévère, où l'enfant est à risque de morbidité et de mortalité très élevé, et si on n'intervient pas rapidement, le risque de décès est très élevé. Donc, à GESCIO et dans tous les autres programmes de prise en charge et de prévention de la malnutrition en Haïti, il y a le dépistage qui se fait à l'aide de la mesure du périmètre brachial de l'enfant. Donc, c'est une mesure qui est très facile à faire, qui n'a pas besoin de grands appareils techniques. Et c'est facile d'identifier et de catégoriser les enfants pour lesquels la prise en charge doit être urgente.
C'est comme avec un petit mètre ruban, comme utiliserait une couturière. On prend la mesure du petit bras en fonction pour voir simplement si l'enfant grossit ou s'il est de trop petite taille par rapport à la moyenne, c'est ça?
Tout à fait. Ce sont des mesures qui ont été standardisées et qui sont normalisées au niveau international et qui permettent d'avoir un standard de référence pour classifier ces enfants-là, ainsi d'avoir des algorithmes de prise en charge nationale.
Alors, les enfants que vous prenez en charge, docteur Rousier, ils présentent quel type de carence? Déjà, vous pouvez mesurer au-delà de cet aperçu avec ce périmètre, mais une fois que vous faites des examens, vous pouvez vérifier qu'il manque de quoi précisément?
L'enfant qui est présent avec une malnutrition aiguë sévère, il a une carence de tout, de protéines, de graisses et de carbohydrates, qui a déjà atteint le corps de l'enfant à un niveau assez important, que son système immunitaire est atteint et son développement est atteint. Souvent, les enfants vont se présenter avec ce qu'on appelle un retard de développement. Il pouvait marcher, il ne peut plus marcher. Il pouvait dire certains mots, il ne peut plus dire certains mots. Donc, c'est un stade, quand on parle de malnutrition sévère, où déjà l'atteinte neurologique et physique est importante.
Est-ce que on peut déjà dire, est-ce que cette atteinte est irréversible? Est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut revenir en arrière?
Oui, absolument.
Et c'est très important de le dire.
Oui, c'est tout là l'avantage d'avoir des programmes de dépistage et de prise en charge et d'avoir cette démarcation de dire là, il faut intervenir rapidement et tout de suite. C'est justement pour pouvoir récupérer ces enfants-là et les rétablir. Et les programmes de prise en charge qui existent permettent qu'en 8 ou 12 semaines, on peut récupérer un enfant si sa déficience est due simplement à un manque d'accès à la nourriture. Certaines maladies peuvent se présenter avec une malnutrition aiguë et il faut aussi traiter la maladie sous-jacente.
Alors, je disais tout à l'heure, il y a ces indicateurs qui montrent que la malnutrition, même la faim, reste des réalités pour le quotidien d'une grande partie de la population ici en Haïti. On peut le dire, c'est très à part hein, dans cette région Amérique-Caraïbe. Fiametta Capellini, il y a peut-être un faisceau de facteurs d'explication pour cette situation. Pourquoi est-ce qu'on a faim aujourd'hui en Haïti?
La situation est très complexe. Les pays souffrent d'une vulnérabilité, d'une fragilisation plus générale depuis plusieurs années, on pourrait dire depuis plus que 15 ans désormais. Et ça affecte les enfants, surtout de la couche la plus vulnérable. Actuellement, nos interventions, l'intervention des AFSI, sont plutôt en milieu rural. Et cela pas parce qu'il y a un risque majeur de malnutrition, mais parce que la présence des services de prise en charge est plus faible en milieu rural. et la population en a assez plus faible au service des prises en charge, peut-être aussi une perception plus faible de ce que les problèmes de malnutrition peuvent entraîner auprès de la santé générale de l'enfant.
Donc il va falloir faire aussi de l'éducation à la santé.
Absolument.
Alors pour bien comprendre, Fiammetta Capellini, malgré tout, quand on voit, quand on se promène ici, on se doute bien que le pays a un immense potentiel agricole. Pourtant, Haïti importe plus de la moitié de ses aliments de base.
Malheureusement, la situation actuelle, ça dépend d'une exposition extrême à l'insécurité alimentaire généralisée dans la population, qui entraîne une insécurité nutritionnelle et un problème de malnutrition soit chronique, soit aiguë, sévère et modérée. Ça signifie qu'il y a un problème de disponibilité de nourriture, il y a un problème d'accès à la nourriture et de compréhension de l'importance d'avoir une diète variée pour les enfants, pour leur croissance. Et les pays dépendent aussi des importations des denrées alimentaires de l'extérieur. La production nationale est insuffisante et les produits importés sont de plus en plus chers pour la population, inaccessibles du point de vue économique des pouvoirs d'achat des familles les plus vulnérables.
Alors justement, il y a un faisceau d'explications, même si ça ne peut pas tout justifier. Fragilité de l'agriculture, répartition des terres, facteurs climatiques, problèmes de transport, d'infrastructures. Ça doit être compliqué, Fiammetta Capellini, quand on veut agir sur le terrain, de réussir à intégrer tous ces différents facteurs.
C'est extrêmement compliqué. Ça demande des interventions holistiques et multisectorielles, ce qui sont difficiles à être obtenues par tout intervenant, soit étatique, soit du côté des ONG. Et je voudrais mentionner particulièrement les problèmes d'environnement qu'il y a en Haïti, les déboisements très forts qu'on observe dans les pays. Et ça affecte aussi l'alimentation et l'accès à la nourriture de la population. Les terres cultivées sont cultivées pour des cultures à cycle très rapide. On n'investit pas sur des cultures longues parce que les petites agriculteurs n'ont pas la propriété de la terre. Donc, on n'investit pas sur des cultures plus complexes qui pourraient améliorer aussi la situation de nutrition et d'alimentation de la population. C'est un cercle vicieux que c'est très difficile à interrompre et pour les intervenants devient complexe.
Alors, il y a des paradoxes quand on parle de la fin de l'alimentation en Haïti. L'un des plus incroyables, c'est qu'il y a un calcul établi par le Programme alimentaire mondial. Si on regarde le revenu moyen, ce dont disposent les Haïtiens, le prix d'une assiette de nourriture ici, en Haïti, c'est l'équivalent de 50 fois ce que cela coûte pour un Américain aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut comprendre justement que se nourrir ici, cela soit si cher ?
Ça se comprend par le fait que la production nationale est insuffisante aux besoins de la population, que l'agriculture, ce n'est pas une agriculture développée suffisamment du point de vue technique. Donc, ce n'est pas tellement rentable. Et la population est évidemment en croissance. Ça rend vraiment difficile d'intervenir. Ça demande à la fois des interventions à caractère d'urgence, parce que les enfants qui ont des niveaux de malnutrition sont des enfants qui demandent une prise en charge thérapeutique, médicale, immédiate. C'est une situation d'urgence.
Docteur Vanessa Rousier, est-ce que vous sentez, on va bien sûr parler tout à l'heure de la prise en charge, de la thérapeutique, mais est-ce que vous sentez que le contexte agit sur votre travail? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments où il y a plus de besoins, où il y a plus de prise en charge, où il y a plus de mamans avec des bébés malnutris qui arrivent dans leurs bras?
Oui, absolument. C'est cyclique et dès que la situation politique, socio-économique s'aggrave, on voit l'affluence augmenter et les enfants venir en pire état. Alors souvent, quand il y a une situation d'instabilité, surtout à la capitale, à Port-au-Prince, les gens partent en province et on les voit revenir quelques mois plus tard et c'est là qu'on constate l'aggravation de l'état de santé et de l'état nutritionnel des familles qui nous reviennent avec des enfants sévèrement malades et sévèrement malnutris.
On va pas bien sûr établir de classement, mais est-ce qu'on pourrait dire que les facteurs sociopolitiques sont bien plus importants que les facteurs climatiques ou ce n'est pas de cet ordre-là?
Je dirais que les deux contribuent parce qu'il y a une fragilité de l'environnement qui est très importante et Haïti étant dans la Caraïbe, dès qu'on a des ouragans, des cyclones, celui de 2016, l'ouragan Mathieu, qui a dévasté la région du sud, qui est la région agricole productrice,
le grenier
de Port-au-Prince, on a tout de suite senti l'impact. Donc, on est fragilisé par les situations sociopolitiques, mais aussi par la vulnérabilité de l'environnement et des catastrophes naturelles.
Est-ce que le déficit agricole, hein, parce qu'on parle bien de cela, de ce qu'on met dans notre assiette, aujourd'hui, les effets de Matthew, on ressent encore 2016-2019 où la page est déjà tournée?
Je pense qu'on a récupéré un peu, mais l'impact sera au long terme parce que la situation sociopolitique ne s'est pas améliorée et l'impact de Matthew du long terme dans les denrées plus, notamment les arbres fruitiers qui prennent des années pour pousser et pouvoir avoir des productions, on le sent encore et on risque de le sentir encore longtemps.
Alors justement, c'est une question importante, vous parlez des arbres fruitiers, c'est très concret. Garda Desbros, dans votre activité, il y a notamment toute une part qui est dédiée à l'éducation thérapeutique, apprendre aux mères comment bien nourrir leur enfant. Et il y a un point très important, c'est notamment cet accès fameux aux fruits et aux légumes.
On met l'accent sur les groupes d'aliments à mettre dans l'assiette des enfants, spécialement les fruits et les légumes qui servent à protéger tout le monde. Disons, ils sont des aliments protecteurs qui servent à vous protéger contre l'arrivée de certaines maladies. Pour les enfants, on met l'accent dans les séances d'éducation. Parce que normalement, les mamans peuvent vous dire que l'enfant n'aime pas tel fruit. Mais on est obligé de leur expliquer tel fruit, ça donne tel ou tel nutriment bon pour protéger l'enfant. Ça veut dire que de façon très pratique, on a des tableaux pour dire, OK, voici les fruits. On met l'accent pour dire que pendant telle période, tel fruit soit accessible. Il faut en profiter pour manger et offrir aux enfants le maximum que possible. Et à chaque saison, on fait de même. Parce que les mamans qui sont un petit peu mieux lettrées ont toujours tendance à acheter d'autres choses qui ne soient pas nutritives pour les enfants. Mais hors des mamans qui sont pas vraiment lettrées, elles offrent ce qu'elles ont, mais pas forcément aller acheter ce qui n'est pas vraiment nutritif pour les enfants.
Mais il y a quand même un défi, c'est de faire une assiette complète quand on a 2 dollars pour nourrir.
Oui, c'est un grand défi parce qu'avec 2 dollars, c'est impossible.
Alors, on va revenir au centre dans lequel vous exercez, le centre Gestio. À l'origine, la spécialité, c'était les maladies infectieuses. Comment, docteur Vanessa Rousier, vous en êtes venue à prendre en charge cette question, on l'a compris, hein, même si ça peut déboucher sur des infections, à prendre en charge la nutrition, et en particulier la nutrition pédiatrique?
Alors, ça a commencé parce que nos enfants infectés avec le VIH, malgré le traitement quand il était devenu disponible en 2003, ils n'avaient pas une bonne évolution. Ils nécessitaient le support alimentaire aussi parce que en 2003, quand les ARV, le traitement antirétroviral, est devenu disponible en Haïti, c'était réservé pour les enfants qui étaient, et les adultes, qui étaient déjà en stade avancé de la maladie, en stade d'immunodépression. Et quand on commence le traitement chez un enfant qui est déjà mal atteint et vraiment qui a le système immunitaire complètement abîmé, le traitement ne suffit pas. Il faut un support alimentaire pour rétablir la flore digestive de l'enfant, le système immunitaire de l'enfant, et le traitement médical ne suffisait pas. D'où est née la nécessité de pouvoir prendre en charge ces enfants avec malnutrition aiguë sévère et leur offrir le programme thérapeutique aussi. Et on avait noté que certains enfants, on n'arrivait pas à les sauver parce qu'ils étaient rendus tellement gravement atteints par la malnutrition que les médicaments ne faisaient plus effet. De là, on a commencé le programme pour les enfants qui étaient infectés avec le VIH et rapidement, on s'est trouvé débordé par des enfants qui nous étaient référés, qui n'avaient pas nécessairement le VIH, mais qui avaient d'autres maladies infectieuses, notamment la tuberculose, qui est probablement la raison la plus commune pour un enfant pour devenir en état de malnutrition. Donc, est née la nécessité d'avoir un programme pour tous les enfants de 0 à 5 ans, et selon le protocole national pour offrir cette prise en charge thérapeutique.
Garda Desbros, hier, on s'est rendu au Gestio, on a vu cette grande salle avec ses mamans, ses petits bébés dans les bras. Les parents que vous recevez, tous sont porteurs du VIH ou il y a des mamans qui viennent et qui viennent pour une question de malnutrition qui n'est pas forcément liée à l'infection?
Okay. Pour ce programme qu'on a, on a les deux groupes. On a les groupes des enfants nés de mères porteuses de VIH. Ces enfants-là, on les voit séparément, non pas pour prendre en charge, pour traiter la malnutrition, mais pour faire la prévention, comme l'a bien dit docteur Rousier, parce que ces enfants qui vivaient dans le sein de leur mère, qui sont exposés au VIH, ont une tendance à un retard de croissance et à la malnutrition. Avec une étude qu'on a eue, on voit que si on fait la supplémentation de très tôt et on apporte assez de nutriments à ces enfants, on va prévenir la malnutrition chez ces enfants. On les voit par tranche d'âge. Les enfants qui étaient là, c'était des enfants qui sont bénéficiaires d'allaitement maternel exclusif. On renforce l'allaitement parce que l'allaitement maternel est vraiment bénéfique pour les enfants exposés au VIH et pour tout enfant, proprement dit.
Et ça contredit pas mal de préjugés. Il y a des gens qui pensent, en raison de la transmission mère à l'enfant par l'allaitement, ça pourrait être plus risqué. Vous, d'expérience, vous avez vu que le bénéfice était bien là, Gerda Desbrosses.
Oui, il faudrait renforcer ça parce que ça est une question d'éducation. Parce que la maman a peur, il y a les groupes d'influence, les tantes, les grand-mères, les voisines qui influencent la maman s'ils savent que la maman est porteuse de VIH, de ne pas donner le lait. Mais avec nos programmes et nos séances d'éducation, on doit renforcer la prise des ARV et donner le lait maternel qui est plus bénéfique pour l'enfant qui est déjà exposé au VIH pour garder son système immunitaire et pour prévenir la malnutrition chez ses enfants. Mais de par expérience, nos enfants qui sont allaités sont bien portants et avec le renforcement sur la prise des ARV, ils sont vraiment et à un état de santé très bien, pour ne pas dire plus bien que les autres. Avec le lait maternel, ils sont en bonne forme. Et avec le suivi rapproché avec pédiatrie et autres programmes pour la prévention de la transmission, ils sont devenus, disons, négatifs.
Alors, comment les bébés arrivent jusqu'à vous, docteur Vanessa Rousier? Sont des agents communautaires qui les réfèrent? C'est parce que la maman est suivie dans un autre service, service infectieux, qu'ils arrivent chez vous? Comment ça se passe?
Alors, au GISCIO, il y a deux portes d'entrée pour la malnutrition. Ce sont les enfants qui sont vus en pédiatrie et au GISCIO ou qui se présentent pour la première fois. Ils sont automatiquement dépistés pour la malnutrition. Donc, c'est un dépistage systématique pour ne pas rater aucune occasion. Mais aussi, on a un centre de référence. Donc, tous les hôpitaux où il y a une prise en charge hospitalière de la malnutrition aiguë sévère, une fois que l'enfant est stabilisé, mais qu'il a encore besoin d'un suivi en ambulatoire, il est référé au GISCIO si c'est dans la zone de proximité de où habite la mère de l'enfant. Étant un centre de référence, on reçoit beaucoup d'enfants par année.
Alors, élément très important, hein, où qu'on soit dans le monde quand on veut soigner, l'accès aux soins et le coût des soins, docteur Vanessa Rousier, comment ça se passe chez vous pour payer les soins, les analyses, les produits? Parce qu'on va parler tout à l'heure aussi de ces petits produits qu'on donne pour se réalimenter, pour avoir les bons nutriments. Ça coûte cher, ça coûte quoi ou ça coûte rien?
Ça coûte cher, mais c'est pas le parent qui va payer. En Haïti, comme il n'y a pas un service de santé gratuit pris en charge par l'État, la mission de GISCIO a toujours été de trouver des moyens de financer les soins de santé. Donc, à GISCIO, les soins de santé sont gratuits et pour la prise en charge, le dépistage et la prévention de la malnutrition dans les différents groupes que nous recevons, les services sont gratuits.
Et vous n'êtes pas une structure publique?
Non. Nous sommes une organisation haïtienne à but non lucratif.
Priorité santé sur RFI. Port-au-Prince, 89.3 FM.
Priorité santé à Port-au-Prince. On continue de parler de la prise en charge de la malnutrition ici à Port-au-Prince, mais aussi ailleurs dans le pays. On retrouve nos trois invités, Fiametta Capellini de la Fondation AFSI, docteur Vanessa Rousier, chef du service de pédiatrie et nutrition des centres GISCIO, Gerda Desbrosses, infirmière praticienne, responsable du programme de nutrition. Alors, votre structure, Gerda GISCIO, travaille en étroite collaboration avec l'hôpital de l'Université d'État. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, aux auditrices qui vous distinguent, qu'est-ce qui se passe chez vous qu'il n'y a pas là-bas et qu'est-ce qu'il y a là-bas qui ne se passe pas chez vous?
En fonction de ce qu'on appelle le protocole national de prise en charge de la malnutrition, on a différentes catégories d'enfants avec malnutrition aiguë sévère. Il y a les enfants avec malnutrition aiguë sévère sans complications qui peuvent être traités en ambulatoire. Ça veut dire qu'ils peuvent venir chez nous au GISCIO, recevoir les intrants, les produits et aller chez eux et revenir de façon hebdomadaire pour prendre et faire le suivi de l'évolution. Il y a les enfants aussi qui sont avec malnutrition aiguë sévère qui ont des complications. Cela veut dire qu'ils sont très malades, qui n'ont pas d'appétit, qui ont une infection quelconque, qui doivent être traités en milieu hospitalier. On a appelle ces hôpitaux-là les USN, unités de stabilisation nutritionnelle. Par exemple, la HUEH est un USN où on doit référer tout enfant avec malnutrition aiguë sévère qui ont des complications pour être stabilisé. Une fois que l'enfant soit traité pour la maladie, les infections quelconques, et être référé chez nous dans ce qu'on appelle le PTA, qui est un programme thérapeutique ambulatoire.
Pour parler clairement aux auditeurs, en gros, chez vous, il n'y a pas de lit.
Non, il n'y a pas de lit. On reçoit un ambulatoire. C'est-à-dire la maman vient, il n'y a pas de lit.
On entend souvent, quand on parle de renutrition, je ne sais pas si le terme est exact, Gerda Desbrosses, vous allez me le dire, le nom d'un aliment spécial pour la prise en charge, pour ce que l'on donne aux enfants notamment qui sont en état de dénutrition sévère. Si je ne me trompe pas, vous pouvez nous parler de ce produit?
Ok, ce produit, c'est un produit très riche en protéines. C'est un produit à base de mamba, du lait et des micronutriments nécessaires pour l'enfant à cet âge.
Mamba arachide.
Oui, mamba arachide.
À base d'arachide. Il n'y a pas de problème. On l'appelle un peu partout dans le monde de façon différente.
Oui, ça veut dire qu'on utilise ça pour offrir la quantité de protéines nécessaires pour réhabiliter le plus rapidement que possible l'enfant qui est en état de malnutrition et prévenir les décès causés par la malnutrition.
Depuis combien de temps existe ce produit? Est-ce que vous pouvez dire que vraiment, quand vous le donnez aux petits, quand ils sont fragiles, etc., vous voyez de façon spectaculaire le rétablissement?
Ok, ça existe depuis avant 2009 parce qu'il y avait les amis de la santé chez Paul Farmer qui avait ce qu'on appelle avant le médicament bas. C'était produit localement. Après, on avait Nutricep, qui est une organisation internationale qui fournissait à travers l'UNICEF ce produit. Mais actuellement, on a le Made in Food for Kids qui se base au Cap Haïtien, qui produit ce même aliment thérapeutique.
C'est du local.
Local pour offrir ce traitement aux enfants.
Alors, une fois que l'enfant est admis dans votre service, y a toute une batterie de tests. Comment ça se passe?
Okay. Pour gestion, le premier test, c'est le test VIH. On fait, et puis on fait l'hémogramme parce que l'enfant qui est malnutri, fort souvent, il a une anémie également.
Donc, on va voir le fer, les globules rouges?
On fait l'hémogramme pour voir le taux d'hémoglobine. Et puis, si l'enfant est symptomatique, il a de la fièvre, il tousse, on fait le dépistage systématique avec des clichés radiologiques pour voir si l'enfant n'a pas une tuberculose. Parce que l'enfant peut venir, comme l'avait dit Dr Ouzé, avec la malnutrition, mais c'est parce que l'enfant a une tuberculose de façon chronique en dessous qui fait que l'enfant soit malnutri. Alors, on fait le suivi. Si l'enfant a des problèmes de diarrhée et autres, on fait systématiquement les tests qui requièrent ces symptômes. Alors, l'enfant est suivi et reçoit les intrants à des rendez-vous et puis on fait l'évolution, le suivi intégré avec la pédiatrie.
Justement, je m'adresse à la pédiatre, Dr Vanessa Rouzier, prise en charge pédiatrique globale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi, par exemple, les vaccins?
Oui. Un enfant qui est en état de malnutrition sévère ne va pas recevoir la vaccination tout de suite parce que son système immunitaire est incapable de répondre à cet antigène que lui présente la vaccination et de créer des anticorps. Donc, la prise en charge est essentielle et il s'agit de rétablir cet enfant-là et ensuite de pouvoir lui offrir les vaccins de routine. Alors, à noter que même si certains symptômes requièrent certains examens de dépistage, le protocole national se veut simple, afin qu'il soit implémenté dans des zones rurales aussi, où les tests ne sont pas nécessairement accessibles. Donc, le protocole national prescrit certains antibiotiques de routine pour traiter les pneumonies et les diarrhées, qui sont les deux infections les plus couramment associées avec les enfants avec malnutrition. Et si l'enfant ne répond pas à la prise en charge thérapeutique, il faut absolument, à ce moment-là, réévaluer ou référer à un centre où on peut faire d'autres tests, tels que le dépistage du VIH et de la tuberculose, qui expliquerait pourquoi l'enfant ne répond pas à la prise en charge nutritionnelle. Et une fois que l'enfant est rétabli, certainement, le devoir, c'est de mettre à jour sa vaccination pour le protéger contre les infections.
Alors, il y a dépistage, traitement. Il y a aussi, Gerda Desbrosses, la sensibilisation. Elle s'adresse à qui? Surtout aux mères. Dans le service où je me suis rendue, j'ai pas vu beaucoup de papas. Ce sont surtout les mamans qui viennent quand même.
Oui, comme l'a dit dans le protocole national, c'est notre référence. C'est la prise en charge communautaire de malnutrition aiguë sévère. Parce qu'on doit aller dans les communautés, sensibiliser les parents, les leaders communautaires pour pouvoir dépister de façon précoce la malnutrition.
Vous dites, on qui s'y rend dans les communautés?
les acteurs, les intervenants en santé, AFSI, GESCIO, MSPP, tous ceux qui sont intervenus dans la nutrition doivent avoir du personnel des agences de santé pour aller dans les communautés, rencontrer les communautés, sensibiliser pour savoir ce que c'est la malnutrition. Parce que avant, il y avait eu des tabous autrefois, longtemps de cela, il y avait eu des tabous sur la malnutrition.
Mais est-ce avec que vous pouvez m'en parler de ces tabous?
Par exemple, on peut avoir un enfant qui soit œdémacié, ce qu'on appelle les enfants avec kwashiorkor, qui sont enflés. On peut penser que soit il y a des maladies mystérieuses, mystiques.
Un esprit, par exemple?
Un mauvais esprit, bon, qui frappe l'enfant. Les parents ne savaient pas vraiment que c'était la malnutrition. Mais avec la sensibilisation pour savoir ce que c'est que la malnutrition, on a sensibilisé les communautés pour pouvoir reconnaître la malnutrition et les dépister systématiquement pour avoir la prise en charge précoce pour réduire les décès, disons la mortalité infantile en cas de malnutrition.
Alors je me tourne justement vers l'actrice de terrain, Fiammetta Capellini. Votre organisation s'implique dans ce domaine de la prévention. Vous pouvez justement nous expliquer par quel type d'action ?
Bien sûr. Nous essayons d'élargir le plus que possible la base des connaissances des problèmes qui sont liés à la malnutrition en milieu communautaire et rural. Parce que c'est là que nous avons les problèmes les plus graves à rejoindre nous tous les intervenants, à rejoindre les bénéficiaires, pour une question vraiment des milieux d'intervention assez complexe. Ce que nous essayons de faire, c'est de sensibiliser en premier lieu les mamans, parce qu'elles sont les plus sensibles aux messages, et c'est là que nous avons la meilleure réponse en termes de conscientisation. Nous essayons de répondre à ces messages sur quels que sont les signes de la malnutrition, les risques que l'enfant est exposé. Nous essayons de former des mamans leaders dans la prise en charge en milieu communautaire.
Comment vous faites pour les identifier?
Nous essayons de former ces mamans qui puissent reproduire les messages dans les groupes de petits villages auprès d'autres mamans, parce que chaque mère puisse être en mesure de reconnaître les signes et de comprendre quand c'est le moment de s'adresser vers un centre de prise en charge spécialisé. Il faut que vous compreniez que parfois la population rurale vit très éloignée par rapport au centre de prise en charge. Et la population vit d'agriculture, ils vont dans les champs chaque jour. C'est difficile pour la maman d'abandonner les restes des enfants à la maison pour venir au centre de santé et faire des longues, longues lignes en attendant que quelqu'un regarde son enfant. Donc, elle recule par rapport à ça. Elle attend, parfois, elle attend trop tard. Parfois, elle n'a pas la conscience de quels sont les signes de malnutrition parce que l'émaciation, c'est facile à dépister pour une maman. Le fait que l'enfant soit enflé, qu'il y a des œdèmes, ça, ce n'est pas si immédiat un signe des malnutritions pour les mamans en milieu rural.
Parce qu'on pense que quand on est malnutri, on maigrit et on ne peut pas penser forcément que quand on est dénutri, on gonfle, tout simplement.
Absolument.
Le visuel n'est pas ce qui est dans la croyance répandue au sein de la population.
Absolument. Nous essayons de répandre ces messages. On s'appuie avec des moyens très simples, des campagnes de sensibilisation. On utilise des radios, on passe des messages radio dans les communautés rurales pour vraiment que la population soit en mesure de reconnaître et de prendre en charge avec les moyens qu'ils ont déjà disponibles.
On dit, on identifie, par exemple, les agents vont identifier des familles vulnérables, Fiammetta Capellini. C'est qui ces familles vulnérables?
Il y a une grande campagne à l'échelle nationale pour former des agents communautaires polyvalents en santé, qui soient en mesure de faire la liaison vers la communauté. Un agent est censé habiter et vivre au sein de cette communauté, de connaître directement les familles les plus vulnérables. Les indicateurs qui sont pris en compte pour définir les niveaux de vulnérabilité de la famille sont plusieurs. Ça serait peut-être un peu complexe de rentrer dans les détails, mais bien sûr, on a quoi faire avec les moyens de production en milieu rural de la famille, avec les moyens de subsistance, la taille de la famille, les nombres d'enfants qui sont en âge inférieur de 5 ans. Cet indicateur-là sont pris en compte pour évaluer la vulnérabilité et pour essayer de cibler les familles les plus vulnérables.
Alors on l'a bien compris, hein, malnutrition, question de santé publique. Docteur Vanessa Rousier, est-ce que les personnels de santé sont vraiment sensibilisés à cette question?
Il y a une sensibilisation au niveau national et le ministère a mis sur pied le programme de formation des agents polyvalents en santé communautaire pour répondre justement aux besoins de disséminer l'accès à l'information au niveau des communautés, parce que le système sanitaire, la structure sanitaire étant affaibli avec les années de tensions sociopolitiques. Donc, GESCIO a est un des centres de formation du ministère de la Santé de ces agents-là. Et c'est le pilier des activités communautaires du GESCIO, c'est de pouvoir disséminer les informations à travers les agents qui vivent dans les communautés et qui servent aussi de lien pour amener les gens qui auraient été référés comme ayant nécessitant un service pour les accompagner aux structures de santé, parce que comme disait Mme Capellini, il y a des barrières à l'accès. Et on sait que pour les populations les plus vulnérables, ce sont elles qui sont souvent les plus intimidées pour accéder aux soins spécialisés. Donc, l'agent de santé joue ce rôle d'accompagnateur parce que c'est quelqu'un de la communauté. La personne est plus à l'aise à s'adresser avec cet agent de santé-là qui peut faire le dépistage, commencer à répondre aux questions et servir de lien pour les accompagner aux structures de prise en charge.
Est-ce qu'on peut parler d'une dimension psychologique, Dr Vanessa Rouzier, peut-être chez certains parents même, d'un sentiment de honte par rapport à ce qui se passe quand on n'arrive pas à nourrir son enfant?
Certainement. Il y a toute une
culpabilité.
Une culpabilité. C'est très difficile pour une maman de venir avec un enfant dans un état très grabataire et vous raconter la misère qu'elle vit à la maison.
Gerda Desbrosses, elle vous en parle, les mamans, passer justement le moment de silence, de honte, c'est quelque chose qu'elle arrive à vous confier ou c'est impossible?
Oui, fort souvent, dans les clubs de mères qu'on organise, il y a des partages d'expériences. Les mamans peuvent vous dire, voilà, j'ai deux enfants, j'avais même pas 50 gourdes pour les nourrir hier, j'ai dû demander à quelqu'un, des fois quand elle vous raconte ça, elle pleure. Ça veut dire que ça leur touche très, très, très profond avant d'accepter. Parce que la première fois que vous dites que l'enfant est mal nourri, c'est-à-dire que l'enfant a la malnutrition, pour elle, l'enfant n'a pas trouvé assez à manger. Et c'est vrai, ça lui fait mal au cœur pour dire, OK, vraiment, elle est dans une situation difficile, elle ne voit pas où s'en sortir. Si elle a deux enfants, elle est chef de famille, elle n'a pas de qui tenir pour nourrir ses enfants. Vraiment, elle partage et c'est dur.
Alors, on a abordé ces questions de thérapeutique. Je me tourne vers vous, Fiammetta Capellini, Point Focal Nutrition pour l'AFSI, hein, une ONG engagée dans des programmes de développement. Il y a aussi les interventions à moyen et long terme, des projets de fond, parce qu'ici, la malnutrition, on a parlé des tensions sociopolitiques, on a parlé des dégradations de l'environnement et des cataclysmes, on peut dire, liés notamment au climat. Mais il y a également tout le problème des infrastructures. Et ça joue énormément quand on cherche à se nourrir, quand on cherche, quand son enfant est malade, à aller à l'hôpital ou même jusqu'à un centre de santé. On peut le dire ici, hein, les infrastructures ne sont vraiment pas à la hauteur.
Il faut une couverture de la géographie du pays et ça manque. Évidemment, c'est un manque de moyens au niveau du ministère de la Santé, mais au niveau plus en général des budgets de l'État. Et il n'y a pas une couverture suffisante des besoins. Bien sûr, en milieu rural, c'est plus évident par en conséquence de l'éloignement de la population, des distances géographiques à couvrir. Et la situation aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de centres de prise en charge. Les structures sont absolument inadéquates à la prise en charge, ne sont pas équipées suffisamment et l'accessibilité est difficile par la population. Un grand effort est en train de se faire pour qu'il puisse y avoir un système de réhabilitation simple, à base communautaire et qui puisse assurer une certaine durabilité. Des programmes à large échelle sont en train d'être mis en place. Juste hier, un nouveau programme sur la lutte à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle a été lancé par le premier ministre haïtien en collaboration avec l'Union européenne sur financement de la délégation de l'Union européenne. C'est un programme énorme qui va intervenir dans deux des départements dans lesquels nous avons les indices de prévalence de la malnutrition les plus difficiles, l'Artibonite-Anou et le Nord-Ouest. Ce programme est censé aussi prendre en charge la réhabilitation des centres de santé qui offrent des services de nutrition en milieu rural et notre ONG aussi est engagée sur ce programme avec beaucoup d'autres intervenants. Le problème, c'est toujours d'assurer la durabilité parce que quand les moyens économiques et financiers sont insuffisants, c'est la communauté qui doit se mobiliser et avec un niveau de pauvreté tel que nous avons aujourd'hui, c'est difficile de demander aux communautés aussi de se mobiliser en ce sens. Mais bien, nous espérons d'aboutir à des résultats.
Alors, les problèmes d'infrastructure, on en parle, les choses avec des projets pour essayer d'améliorer les choses. Un problème crucial quand on parle d'alimentation, c'est l'accès à l'eau, hein, tout simplement, parce qu'il y a des aliments à préparer, parce qu'il faut aussi donner à boire à son enfant. Tout à l'heure, vous parliez des maladies tueuses d'enfants, docteur Vanessa Rousier, la pneumonie au niveau donc respiratoire. Bien sûr, les diarrhées aiguës chez les enfants, beaucoup de ces maladies particulièrement redoutables pour les plus petits sont liées justement à cette question de l'eau. Là encore, ça peut être un facteur aggravant.
Absolument. Haïti est un pays où il y a beaucoup de sources d'eau, mais les eaux ne sont pas nécessairement potables et souvent, les gens boivent de l'eau qui n'est pas traitée. Pour les adultes un peu plus résilients, ça peut passer, mais pour un enfant, être exposé à des diarrhées chroniques peut les amener en état de malnutrition à cause de diarrhées répétées. Donc, c'est un problème.
Gerda Desbrosses, c'est quelque chose que vous voyez en consultation des enfants qui, on va dire, qui ont cette comorbidité, double atteinte, à la fois malnutrition et diarrhée aiguë?
Oui, c'est courant parce que les enfants qui viennent peuvent avoir la malnutrition, soit pour cause d'accès ou bien cause de maladie, parce que les maladies diarrhéiques à répétition entraînent également la malnutrition. Ça veut dire que les enfants qui ont la diarrhée de temps en temps, à cause de manque d'accès à l'eau potable, environnement sanitaire.
Pas de toilette, tout simplement.
Et puis d'eau pour la douche, les vaisselles, tout et tout.
Nettoyer les aliments.
Et créer, entraîner aussi la diarrhée et par un cercle vicieux, entraîne la malnutrition.
Alors justement, on peut aussi agir en sensibilisation auprès des mamans sur ces questions. C'est quelque chose que vous faites aussi, une éducation thérapeutique sur l'hygiène alimentaire.
Okay. Dans les clubs de mère, on a des thèmes de santé sur l'alimentation, pour l'hygiène de l'enfant et l'environnement sanitaire. Par exemple, quand on a les enfants qui commencent déjà à marcher à quatre pattes, on sait qu'ils vont attraper des choses et mettre dans leur bouche et entraîner de la diarrhée. Ça veut dire que on est obligé de toucher ce volet-là parce que c'est coïncidé.
Alors, on va voir, il y a des actions à de très nombreux niveaux. Fiammetta Capellini, par exemple, vous travaillez sur le renforcement agricole. Là, on se dit quel rapport, franchement, avec le sujet d'aujourd'hui. Pourtant, il y en a, hein, parce que les problèmes d'environnement, dégradation de l'espace naturel, avec la déforestation, on entendait à l'instant, l'eau qu'il faut faire bouillir, le problème, il faut trouver le bois pour faire bouillir l'eau aussi.
Oui, là aussi c'est un problème complexe, c'est un cercle que c'est difficile de couper. Nous essayons d'accompagner les agriculteurs les plus vulnérables pour obtenir de la superficie et cultivable qu'ils ont disponible la meilleure valeur nutritionnelle qu'ils peuvent offrir pour l'alimentation de leur famille. En même temps, nous essayons d'encourager l'association entre les cultures pour l'alimentation et la couverture en arbres. En Haïti, on appelle ça agroforesterie. On essaye de traiter les parcelles productives avec des paquets d'agroforesterie, de façon telle qu'on puisse obtenir vraiment la nourriture dont les petits agriculteurs ont besoin avec une meilleure protection de l'environnement. On essaye de promouvoir ces cultures qui peuvent offrir une meilleure valeur nutritionnelle. C'est un travail vraiment en association entre les ministères de l'Agriculture et de la Santé. Le ministère de la Santé a introduit dans les protocoles nationaux aussi des actions pour sensibiliser et former en milieu rural les familles et les foyers sur la meilleure utilisation des produits qui sont disponibles. On associe à ça aussi une action de transformation des produits pour essayer de les rendre exploitables au 100%, parce que déjà la production est trop réduite pour la population. Si on n'arrive même pas à en bénéficier au 100%, c'est un problème énorme. Mais les résultats commencent à arriver et sont encourageants.
Alors pour conclure cette émission, hein, question pour comprendre aussi le ressenti face à des besoins aussi essentiels, question que je vais poser à chacune d'entre vous en fonction bien sûr de ce que vous rencontrez dans votre quotidien en étant confrontée à cette situation de détresse. Docteur Vanessa Rousier, est-ce que vous pensiez quand vous avez entamé une formation de médecin qu'un jour vous seriez amenée à traiter des questions de dénutrition?
Je suis haïtienne, j'ai grandi en Haïti et j'aime mon pays et je m'étais toujours dit que j'ai dû partir pour aller faire ma formation à l'étranger, mais j'étais motivée de retourner en Haïti. Mais je dis toujours que même si j'ai grandi en Haïti, je jouais pas dans des bidonvilles et j'ai pas côtoyé d'aussi près la misère de mon peuple. Et depuis mon retour et mon travail au centre Gesquio, qui dessert une population les plus vulnérables, c'est vraiment spécial. Alors, C'est très dur des fois, c'est très touchant, mais le bénéfice est incroyable aussi parce que on peut, avec des petites actions, changer le cours de la vie de ces familles-là. Et les interventions qu'on fait, on ne peut pas peindre un tableau complètement négatif, mais il y a des activités que les différents partenaires font tout à fait la différence. Et juste le produit miracle de récupérer un enfant qui était en état éteint de malnutrition sévère, de le voir courir dans la salle quelques semaines plus tard, c'est absolument formidable.
Gerda Desbrosse, vous aussi, jour après jour, une petite pierre à l'édifice, mais des fois, on n'a pas l'impression que tout va retomber par terre.
Bon, pour vous dire bien, je suis infirmière formée en Haïti, au nord du pays. Quand je grandissais, j'ai vu des enfants mourir de malnutrition. Je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Quand j'étais étudiante, je me suis dit, bon, le traitement est possible. Mais c'est parce que les mamans, les parents ne savaient pas quoi faire ou où aller. Quand j'étais venue au GESCO, je me suis dit, bon, c'était mon domaine. J'aime voir les enfants grandir. Comment pourrait aider à renforcer ce qui existait déjà. On peut toujours prévenir les décès chez les enfants. Avec les séances d'éducation, on peut quand même changer la perception des mamans à savoir comment nourrir avec ce qu'elles ont. On ne peut pas agir sur la sécurité alimentaire de notre côté, mais avec des séances d'éducation, on peut aider. Quand on voit les enfants guérir, sortir de la malnutrition, ça vous donne quand même un petit peu de satisfaction, mais on est resté insuffisant devant le problème.
Fiametta Capellini, quand vous êtes arrivée la première fois en Haïti, est-ce que vous saviez l'ampleur du travail qui vous attendait, qui attendait justement ceux qui s'engagent pour lutter contre la malnutrition?
Je suis arrivée en Haïti une première fois il y a 15 ans. Et j'ai trouvé un pays avec beaucoup d'envie, d'espoir, avec un regard sur le futur très positif. Dans une situation difficile, mais avec un regard positif et une force incroyable. Et je crois que ça allait améliorer, qu'il y avait des professionnels, il y avait les ressources et l'énergie. Et au cours des années, nous avons connu tous ensemble plusieurs crises et des moments extrêmement difficiles. Moi, je continue à croire avec tous les Haïtiens avec lesquels je travaille, que nous sommes sur la bonne route et que les résultats vont venir. Mais franchement, c'est inacceptable encore aujourd'hui de voir des enfants qui arrivent et pour lesquels c'est trop tard. Ça, pour nous tous, les opérateurs, c'est difficile à accepter. Donc, bon.
Même si le message très important qu'on va répéter en conclusion sera le dernier mot, docteur Vanessa Rouzier, c'est que même si ces conséquences peuvent être très graves de la malnutrition, quand un enfant est pris en charge suffisamment à temps, eh bien, le traitement est simple. Donc, il faut agir.
Absolument. Le message doit être positif et le message doit être disséminé à tous. C'est pour ça qu'on s'engage au niveau de la formation, au niveau des maires, au niveau des agents communautaires, au niveau des prestataires de soins, parce que on peut faire quelque chose. Les actions doivent être à différents niveaux, mais on ne peut pas rester passif parce que absolument, ces enfants ne doivent pas mourir et avec notre aide, on peut intervenir.
Merci beaucoup. Notre échange touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, mesdames. Docteur Vanessa Rouzier, chef du service de pédiatrie nutrition des centres GESCO. À vous, Gerda Desbrosse, infirmière praticienne, responsable du programme de nutrition au GESCO. Et Fiametta Capellini, responsable régionale de l'ONG AFSI en Haïti et dans les Caraïbes. Alimentation et lutte contre la dénutrition en Haïti, émission réalisée avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre, émission préparée par Ophélie Lassène avec Marc Ingtoff Casimir, réalisée par Victor Hull à Port-au-Prince et Didier Bleu à Paris. Demain, dans Priorité Santé, toujours à Port-au-Prince, nous parlerons environnement et santé. On se retrouve à 9h10 temps universel.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.